Chapitre 3. Le terrier.
« Ron ?»
chuchota Harry en se glissant près de la fenêtre. Il souleva le panneau coulissant pour qu'il puisse se parler à travers les barreaux.
« Ron, comment t'as fait, mais qu'est-ce que... »
Harry resta bouche bée lorsqu'il vit que Ron était penché à la fenêtre arrière d'une vieille voiture vert turquoise qui s'était immobilisée dans les airs. À l'avant de la voiture, Fred et George, les deux frères jumeaux de Ron, lui souriaient. « Ça va, Harry ?»«
Qu'est-ce qui s'est passé ?»
demanda Ron.
« Pourquoi tu n'as pas répondu à mes lettres ?» Je t'ai invité à venir chez nous une bonne douzaine de fois et là-dessus, papa rentre à la maison et nous raconte que t'as reçu un avertissement pour avoir fait de la masie devant les moldus.
C'était pas moi. Et d'abord, comment l'a-t-il su?
Il travaille au ministère et tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de faire de masie en dehors de l'école.
Ça te va bien de dire ça, répliqua Harry en montrant la voiture volante.
Oh, ça ne compte pas. On n'a fait que l'emprunter à l'état papa et c'est pas nous qui l'avons trafiqué. Mais faire de la masie sous le nez des moldus, c'est qui tu habites? Oh! Mais c'est pas moi, je te dis. Ce serait trop long à t'expliquer. Écoute-moi. Est-ce que tu pourrais dire à Poudlard que les Dursley m'ont enfermé qu'ils refusent de me laisser retourner à l'école? Je ne peux pas me sortir de là par une formule magique, sinon le ministère de la magie dirait que c'est la deuxième fois en 3 jours que j'enfreins le règlement. Alors, arrête tes bavardages. On est venu te cercer pour t'emmener à la maison. Mais toi non plus, t'as pas le droit de me délivrer par une formule magique. On n'en aura pas besoin, assura Ron en montrant ses deux frères d'un signe de tête. Tu oublies qui m'accompagne. Attache ça au barreau,
dit Fred qui lança à Harry l'extrémité d'une corde.
« Si les Dursley se réveillent, je suis mort, » dit Harry en nouant solidement la corde autour des barreaux tandis que Fred donnait de grands coups d'accélérateur. « T'inquiète pas, dit Fred, il recule un peu. »
Harry recula près de la cage d'Edwige qui observait la scène en silence. Elle semblait avoir compris qu'il se passait quelque chose d'important. Le moteur de la voiture s'emballa et soudain il y eut un grand bruit. Fred avait foncé tout droit dans les airs et les barreaux de la fenêtre avaient été arrachés net. Harry se précipita et vit les barreaux qui pendaient au bout de la corde, à moins d'un mètre du sol. Le souffle court, Ron les hissa à l'intérieur de la voiture. Inquiet, Harry tendit l'oreille, mais aucun son ne provenait de la chambre des Dursley. Lorsque les barreaux eurent été déposés sur la banquette arrière, Fred fit une marche arrière pour se rapprocher le plus possible de la fenêtre de Harry.
« Allez, monte !» dit Ron. « Il faut que j'emporte mes affaires, » dit Harry. « Ma baguette magique, mon balai, où elles sont ?»« Dans un placard sous l'escalier, la porte de ma chambre est fermée à clé. » « Pas de problème, » dit George, qui était assis à côté de Fred. « Laisse-nous passer. »
Fred et George se glissèrent alors avec précaution par la fenêtre de la chambre. « Il valait mieux les laisser faire, » pensa Harry en voyant George sortir de sa poche une simple épingle à cheveux avec laquelle il entreprit de forcer la serrure.
« Les sorciers pensent que c'est une perte de temps d'apprendre les astuces des moldus, » dit Fred, « mais ils ont des techniques qui valent la peine d'être connues, même si elles sont un peu lentes. »
Il y eut un déclic et la porte de la chambre s'ouvrit.
« Bon, on va chercher ta valise pendant ce temps-là. Prends tout ce qui peut être utile et passe-le à Ron. » « Faites attention à la dernière marche, elle craque !» chuchota Harry aux jumeaux qui s'enfonçaient dans les ténèbres de l'escalier.
Harry fit rapidement le tour de sa chambre, en rassemblant ses affaires qu'il passa à Ron par la fenêtre. Puis il alla aider Fred et George à hisser sa grosse valise en haut de l'escalier. Harry entendit l'oncle Vernon tousser.
Hors d'haleine, ils atteignirent enfin le palier du premier étage et transportèrent la lourde valise jusqu'à la fenêtre. Fred remonta dans la voiture pour aider Ron à la tirer à l'intérieur, tandis que Harry et George la poussaient de l'autre côté. Centimètre par centimètre, la valise glissa à travers la fenêtre de la voiture. L'oncle Vernon toussa à nouveau. « Encore un peu !» dit Fred tout essoufflé. « Hey, hey, poussez un bon coup !»
Harry et George pesèrent de tout leur poids contre la valise qui bascula enfin sur la banquette arrière de la voiture.
« Ok, on y va !» chuchota George. Mais au moment où Harry grimpait sur le rebord de la fenêtre, un cri aigu retentit derrière lui, suivi par la voix tonitruante de l'oncle Vernon. « Cette fichue chouette !»« J'ai oublié Edwige. »
Harry retourna aussitôt à l'intérieur de la chambre. Au même moment, la lumière du couloir s'alluma. Il attrapa la cage d'Edwige, se rua vers la fenêtre, passa la cage à Ron et remonta sur le rebord à l'instant où l'oncle Vernon tambourinait à la porte qui s'ouvrit à la volée. Pendant une fraction de seconde, l'oncle Vernon resta pétrifié à l'entrée de la chambre. Puis il laissa échapper un beuglement de taureau furieux et plongea sur Harry en le saisissant par une cheville. Ron, Fred et George empoignèrent Harry par les bras et le tirèrent vers eux de toute leur force.
« Pétunia ! Pétunia !»
rugit l'oncle Vernon.
« Il s'échappe ! Il est en train de s'enfuir !»
D'un même mouvement, les frères Wesley tirèrent Harry si fort que sa cheville glissa des mains de l'oncle Vernon.
« Pied au plancher, Fred !» hurla Ron dès que Harry fut dans la voiture et qu'il eut claqué la portière.
La voiture s'élança alors vers la lune.
Harry avait du mal à le croire, il était libre. Il baissa la vitre
Le vent de la nuit ébouriffa ses cheveux et il regarda les toits des maisons de Private Drive s'éloigner derrière lui. Les yeux ronds et la bouche grande ouverte, l'oncle Vernon, la tante Pétunia et le gros Dudley, tous trois penchés à la fenêtre de la chambre, regardaient la voiture s'élever dans les airs.
« À l'été prochain !» leur cria Harry.
Les Weasley éclatèrent de rire et Harry s'installa confortablement sur la banquette en souriant d'une oreille à l'autre. « Laisse sortir Edwige, » dit-il à Ron. « Elle volera derrière nous. Il y a un temps fou qu'elle n'a pas eu l'occasion de se dégourdir les ailes. » George donna à Ron l'épingle à cheveux et un instant plus tard, Edwige s'élançait avec bonheur par la fenêtre de la voiture qu'elle accompagna en planant comme un fantôme.
« Alors, raconte Harry, » dit Ron avec impatience. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Harry leur raconta l'histoire de Dobby, l'avertissement qu'il lui avait donné et le triste sort du gâteau aux violettes.
Un long silence stupéfait suivit son récit. « Vraiment louche tout ça, » dit enfin Ron.
« Tout ce qu'il y a de plus bizarre, » approuva George.
« Il ne t'a même pas dit qui est derrière ce complot ?»«
Je pense qu'il lui était impossible de le dire, » répondit Harry. « Chaque fois qu'il était sur le point de laisser échapper quelque chose, il se cognait la tête contre le mur. » Il vit Fred et George échanger un regard.
« Vous croyez qu'il m'a raconté des histoires » dit-il.
« Les elfes de maison ont de grands pouvoirs magiques, » répondit Fred. « Mais d'habitude, ils n'ont pas le droit de s'en servir sans l'autorisation de leur maître. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un pour essayer de t'empêcher de revenir à Poudlard. Quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. » « Tu ne vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école ?»«
Oh, si !» répondirent Harry et Ron d'une même voix.
« Drago Malfoy, » dit Harry, « il me déteste. »« Drago Malfoy ?» dit George en se tournant vers lui. « Ce serait pas le fils de Lucius Malfoy ?»«
Si, probablement, c'est pas un nom très courant, pourquoi ?»«
J'ai entendu papa parler de ce type-là, » dit George. « C'était un des plus proches partisans de tu sais qui. » Et quand « tu sais qui » a disparu, ajouta Fred en se tordant le cou pour regarder Harry, Lucius Malfoy est revenu en disant qu'il n'avait jamais voulu tout ça. Tu parles. D'après papa, il faisait partie des intimes de « tu sais qui ».
Harry avait déjà entendu les rumeurs qui circulaient sur la famille de Malfoy et il n'en était pas surpris. À côté de Drago Malfoy, Dudley Dursley était un modèle de gentillesse, de sensibilité et de prévenance.
« Je ne sais pas si les Malfoy ont un elfe de maison, » dit Harry.
« En tout cas, les maîtres de Dobby appartiennent sûrement à une vieille famille de sorciers et ils doivent être riches, » dit Fred.
« Maman a toujours eu envie d'avoir un elfe de maison pour s'occuper du repassage, » dit George. « Mais tout ce qu'on a, c'est une vieille goule pouilleuse dans le grenier et des gnomes qui envahissent le jardin. Les elfes de maison, on les trouve dans les vieux manoirs ou les châteaux. Aucune chance d'en avoir chez nous. »
Harry resta silencieux. Drago Malfoy avait toujours tout ce qu'il voulait. Sa famille devait rouler sur l'or. Il imaginait très bien Malfoy se pavanant dans un vaste manoir. Et il était parfaitement capable d'envoyer un domestique pour essayer d'empêcher Harry de retourner à Poudlard. Harry avait été idiot de prendre Dobby au sérieux.
« En tout cas, je suis content qu'on soit venu te chercher, » dit Ron. « Je commençais à m'inquiéter sérieusement en voyant que tu ne répondais pas à mes lettres. Au début, j'ai cru que c'était la faute d'Hérol. »
Hérol ?
Bah, c'est notre hibou, il est très vieux. Ça n'aurait pas été la première fois qu'il se serait évanoui d'épuisement d'aller emporter le courrier. Alors j'ai essayé d'emprunter Hermès.
Qui ça ?
Le hibou que mes parents ont offert à Percy quand il a été nommé préfet à Poudlard, dit Fred.
Mais Percy a refusé de me le prêter, dit Ron. Il a prétendu qu'il en avait besoin.
Percy est très bizarre depuis le début des vacances, dit George en fronçant les sourcils. Il envoie beaucoup de courriers et il reste presque tout le temps enfermé dans sa chambre.
Mais on ne peut quand même pas passer toutes ses journées à astiquer son insigne de préfet.
« Tu vas un peu trop loin vers l'ouest, Fred, » ajouta George en montrant la boussole fixée au tableau de bord.
Fred tourna légèrement le volant.
« Et votre père, il sait que vous avez pris la voiture ?» demanda Harry.
« Non, » répondit Ron. « Il devait rester travailler au ministère hier soir, mais heureusement, on sera rentré à la maison avant que maman ait pu s'apercevoir qu'on a emprunté la voiture. »«
Qu'est-ce qu'il fait au ministère de la magie, votre père ?»«
Il travaille dans le bureau le plus ennuyeux, le service des détournements de l'artisanat moldu. »«
Le quoi ?»
Ça concerne tous les objets fabriqués par les moldus et qui ont été ensorcelés. Il faut s'occuper de les neutraliser si jamais ils reviennent dans les magasins ou dans les maisons de moldus. Par exemple, l'année dernière, une vieille sorcière est morte et son service à thé a été vendu à un brocanteur. Une moldue l'a acheté, l'a emporté chez elle et l'a essayé de servir le thé à des amis. Ça s'est transformé en cauchemar. Papa a dû faire des heures supplémentaires pendant des semaines.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
La théière a piqué une crise et a commencé à verser du thé partout dans la maison. Un homme a fini à l'hôpital avec une pince à sucre coincée dans le nez. Papa a eu un travail fou ce jour-là. Ils ne sont que deux au bureau, lui et un vieux sorcier du nom de Perkins. Ils ont passé la soirée à acheter des sortilèges d'amnésie et des trucs comme ça pour que personne ne se souvienne de rien.
Mais cette voiture, c'est ton père qui... Fred éclata de rire. Alors, papa adore tout ce que fabrique les moldus. Il a un garage plein de ces machins-là. Il les démonte, leur fait subir un tas de sortilèges et les remonte. S'il devait faire une perquisition dans sa propre maison, il serait obligé de se mettre lui-même en prison. Ça rend ma mère folle de rage.
« Voilà la grande route, » dit Georges en regardant à travers le pare-brise.
« On sera arrivé dans 10 minutes. Il est temps. Le jour commence à se lever. » Une faible lueur rose se dessinait en effet à l'horizon. La voiture perdit de l'altitude et Harry aperçut une mosaïque de champs et de bosquets.
« On est tout près du village, » dit Georges. « Ça s'appelle Loutry-Saint-Chaspoul. »
La voiture volante se rapprocha du sol. Un soleil rouge et brillant commençait à luire à travers les arbres.
« Atterrissage, » annonça Fred.
Ils touchèrent le sol avec un léger soubresaut et s'immobilisèrent à proximité d'un garage délabré qui s'élevait au milieu d'une petite cour. Harry vit alors pour la première fois la maison de Ron. On aurait dit une vaste porcherie qui aurait été agrandie au fil du temps. Haute de plusieurs étages, la maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie. Ce qui était probablement le cas, songea Harry. 4 ou 5 cheminées se dressaient sur le toit rouge et un écriteau tordu, planté près de l'entrée, portait le nom de la maison, le Terrier. Des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé encadraient la porte. Quelques gros poulets bien gras picoraient dans la cour.
« C'est pas très luxueux, » dit Ron.
« C'est merveilleux, tu veux dire, » s'exclama Harry d'un ton ravi en repensant à Private Drive. Ils sortirent de la voiture.